T'es de nos programmes. Bonsoir à tous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du jeudi 30 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Nouvelle manifestation au Soudan sans internet ni téléphone. Des forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes à Khartoum pour disperser les manifestants. Biden et Poutine prônent diplomatie et dialogue avant leur entretien de ce soir. Le chef suprême des talibans ordonne à ses troupes de ne pas punir les anciens responsables afghans. Plusieurs ONG ont accusé le régime islamiste de violence et d'exécution sommaire. La pandémie de Covid-19 pèse encore cette année sur les festivités du Nouvel An vendredi. Avec des restrictions dans de nombreux pays, l'OMS a évoqué mercredi un tsunami de contamination occasionné par le variant Omicron. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La violence s'est de nouveau déchaînée jeudi au Soudan, où 4 manifestants ont été tués et des dizaines blessés parmi une foule qui conspue le pouvoir militaire. Bravant balles réelles, grenades lacrymogènes et coupures des communications. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Ni les appels téléphoniques locaux, ni ceux venant de l'étranger ne peuvent aboutir. Un coup dur pour les militants qui tentent de mobiliser le monde à leur cause via les réseaux sociaux et la diaspora. En outre, les forces de sécurité ont installé des caméras sur les principaux axes de Khartoum. Mais cela n'a pas empêché des milliers de manifestants de scander non au pouvoir militaire et les militaires à la caserne à Khartoum et dans d'autres villes comme Kissala, Port-Soudan et Madani. À quelques centaines de mètres du palais présidentiel où siège le Conseil souverain, chapeauté par le général Abdel Fattah al-Burhan, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes. Des militants font état de nouvelles rafles nocturnes à leur domicile, comme souvent à la veille de chaque manifestation. L'ambassade américaine réclame une retenue extrême dans l'usage de la force. Elle appelle les autorités à ne pas recourir aux détentions arbitraires. En 2 mois de mobilisation anti-putsch, 48 manifestants ont été tués et des centaines blessés par balles.
Au moins 4 personnes, dont 2 civils, ont été tuées jeudi en Somalie lors d'un raid mené par des rebelles Shebab sur une localité proche de la capitale Mogadiscio, a affirmé la police. Des témoins ont affirmé que des combattants Shebab étaient parvenus à entrer dans certaines zones de la ville situé sur une route reliant Mogadiscio au reste du pays avant d'en être repoussé. 4 soldats de l'armée malienne ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue mardi soir à Nara dans l'ouest du pays, une zone où sont implantés les djihadistes selon un bilan provisoire des forces armées maliennes FAMA. L'armée signale également que la brigade territoriale de Niéna dans la région de Sikasso, c'est dans l'extrême sud du pays, a été attaqué mercredi en début de soirée, mais aucune victime militaire ou civile n'a été enregistrée. Les groupes armés qui sévissent en Centrafrique, repoussés des grandes agglomérations, ont recours à des techniques de guérilla et posent des engins explosifs le long des accès routiers pour retarder l'avancée des forces pro-gouvernementales. Dans le nord-ouest de la Centrafrique, où des combats opposent régulièrement militaires et groupes armés, les rebelles ont dissimulé de nombreux engins explosifs, tuant des civils et paralysant l'action humanitaire. Depuis août, selon la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, 8 personnes, dont 2 femmes et un enfant de 5 ans, ont été tuées par des mines dans la seule région du nord-ouest. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, en détention préventive depuis juin dans une affaire de corruption présumée, a été admis mercredi soir à l'hôpital militaire de Nouakchott pour des soins urgents, a annoncé jeudi un de ses avocats à l'AFP. Des membres de sa famille lui ont rendu visite et ont estimé que sa situation est inquiétante, mais stable, a dit M. Ould Ichedo. Il a indiqué avoir à nouveau réclamé au juge la remise en liberté provisoire de M. Aziz après son hospitalisation. Le journaliste libyen Abdelhafid Al-Mogasbi, enlevé il y a environ 5 semaines par des hommes non identifiés à Benghazi, dans l'est de la Libye, a annoncé jeudi à l'AFP avoir été relâché la veille et que son état de santé est bon. Les Sud-Africains ont commencé jeudi à se recueillir devant la dépouille de Mgr Desmond Tutu, arrivé à la cathédrale Saint-Georges-du-Cap pour une chapelle ardente prévue sur 2 jours. L'actuel archevêque du Cap, Thabo Makgoba, a dit une prière pendant que d'autres répondaient de l'encens autour du cercueil de l'infatigable défenseur des droits de l'homme. Plusieurs membres de sa famille, dont sa veuve, que le pays appelle affectueusement Maman Ali et qu'il avait épousée en 1955, l'ont suivi dans l'église.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents américains et russes ont affirmé à quelques heures d'un entretien aujourd'hui leur volonté de dialoguer pour résoudre les profondes tensions russo-occidentales sur fond de crainte d'une invasion russe de l'Ukraine. Les précisions avec Marius Mohunga.
Joe Biden compte proposer, selon la Maison-Blanche, une voie diplomatique pour sortir de la crise lors de leur appel téléphonique prévu vers 20h30 temps universel, le deuxième en moins d'un mois. M. Biden devrait toutefois souligner que les États-Unis demeurent profondément inquiets de la présence des dizaines de milliers de militaires russes à la frontière avec l'Ukraine et qu'ils seront préparés à répondre en cas d'offensive militaire, selon un responsable de la Maison-Blanche. Vladimir Poutine s'est de son côté dit convaincu dans ses vœux de nouvel an au président américain qu'un dialogue efficace et fondé sur le respect mutuel était possible, rappelant le sommet en juin à Genève ayant réuni les deux hommes. Moscou, à l'approche des pourparlers russo-américains le 10 janvier à Genève, ne cesse de répéter que la priorité des priorités est la négociation des deux traités redéfinissant l'équilibre et l'architecture sécuritaire de l'Europe. Pour le Kremlin, la sécurité de la Russie passe par l'interdiction de tout élargissement de l'Alliance Atlantique et la fin des activités militaires occidentales à proximité des frontières russes, zone que Moscou considère comme relevant de sa zone d'influence. Ces discussions seront suivies le 12 janvier d'une rencontre Russie-OTAN, puis le 13 janvier d'une réunion dans le cadre de l'OSCE.
Les pourparlers sur l'accord nucléaire iranien ont enregistré des progrès relativement satisfaisants, a estimé jeudi le négociateur iranien Ali Bagheri à Vienne. Quelques échanges écrits sur la levée des sanctions ont été établis entre les deux parties, a déclaré M. Bagheri selon une vidéo publiée par l'agence de presse Tasnim. Les Occidentaux insistent sur l'urgence à conclure les discussions face aux avancées nucléaires de Téhéran. Le leader suprême des talibans afghans s'oppose aux représailles. Mollah Hibatullah Akhundzada a sommé ses troupes de ne pas s'en prendre aux responsables du précédent régime. Les précisions d'Eddie Isango.
L'appel du Mollah Akhundzada intervient à la suite des accusations de plusieurs ONG. D'après elles, le nouveau gouvernement afghan se livre à des violences et même à des exécutions sommaires ciblant les fonctionnaires du régime déchu. Respectez mon amnistie et ne punissez pas les employés du précédent régime pour leurs crimes du passé, a déclaré les leaders afghans que cite sur Twitter un porte-parole des talibans. En dépit de l'amnistie annoncée par les talibans à leur prise du pouvoir, l'ONU, Amnesty International et Human Rights Watch ont fait état d'allégations crédibles sur l'exécution sommaire ou la disparition forcée de plus de 100 ex-agents de la police et du renseignement. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre 2 combattants talibans passant à tabac un ancien officier afghan dans une cellule. Les nouvelles autorités ont assuré que les coupables seraient sanctionnés.
Avec une flambée record d'infections liées au Covid-19 dans le monde, le cap symbolique du million de nouveaux cas quotidiens a été franchi pour la première fois sur la semaine du 23 au 29 décembre, selon un bilan des autorités sanitaires. Le nombre de contaminations, en grande partie liées au variant Omicron, alimente l'inquiétude pour les systèmes de santé en pleine fête de fin d'année. Plus de détails avec Blanche Sanon.
Plus de 7,3 millions de nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés dans le monde au cours des 7 derniers jours, soit une moyenne de 1 045 000 contaminations par jour. Ce sont de nouveaux bilans communiqués par les autorités sanitaires de chaque pays. Le nombre de contaminations dans le monde est en hausse depuis la mi-octobre, selon l'OMS, avec un taux de 46% par rapport à la semaine précédente. La propagation du variant Omicron, très contagieux, pourrait entraîner un tsunami de cas, a prévenu le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement, a-t-il averti. À l'inverse des contaminations, le nombre de décès liés au COVID-19 poursuit une baisse entamée il y a 3 semaines. Environ 6400 décès liés au virus ont été enregistrés dans le monde ces 7 derniers jours, soit 6% de moins que la semaine précédente, au plus bas depuis octobre 2020. La pandémie a fait au moins 5,4 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.
C'est le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique, suivez John Lyndon pour la Minute Éco.
Au Cameroun, la mise en place de la décentralisation devrait franchir un palier important avec la décision des pouvoirs publics de consacrer plus de ressources financières au fonctionnement des conseils régionaux au cours de l'exercice 2022. Selon Financial Afrique, la dotation générale de la décentralisation, incluant les communes et les régions couvrant le fonctionnement et l'investissement, s'élève à 232 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022 contre 50 milliards de francs CFA le précédent exercice. La compagnie aérienne Emirates, l'une des plus importantes au monde, a affirmé jeudi envisager 2022 avec optimisme malgré le net rebond épidémique actuel. Selon la compagnie, près d'un million de voyageurs sont attendus au départ et à l'arrivée à l'aéroport de Dubaï entre ce jeudi et le 10 janvier 2022. Emirates assure desservir 128 villes dans le monde. L'ensemble des 133 Boeing 777 d'Emirates et les près de 60 appareils de sa flotte d'A380 sont en service, a précisé la compagnie. Après avoir enchaîné les records fin 2020 et en début d'année, atteignant les plus de 60 000 dollars, le Bitcoin semble avoir perdu un peu de son éclat. Les spécialistes des crypto-monnaies peinent encore à prévoir comment ce secteur volatile va se comporter en 2022. En Chine, l'État a interdit les transactions en crypto-monnaie fin septembre et les régulateurs en Europe et aux États-Unis se penchent de plus en plus sur ces réseaux décentralisés très difficiles à encadrer.
Et sans transition, on passe à votre page sport, Élisée Oumpatine, ce soir. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est aujourd'hui la date limite de communication des listes définitives de joueurs retenus pour la compétition. Et tout est fait pour la plupart des 24 nations concernées en attendant la Tunisie. Le Zimbabwe a livré pour lui 23 Warriors, convoqués par le sélectionneur Norman Mapeza pour une préparation directement au Cameroun. Ils disputeront leur troisième CAN de suite où ils évolueront dans la poule B en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Malawi. L'Égypte aussi a rendu publique sa liste définitive avec la présence bien évidemment de Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool rejoindra les Pharaons la semaine prochaine en attendant de jouer Chelsea en championnat dimanche. 25 joueurs donc sélectionnés par le Portugais Carlos Queiroz qui affronteront dans le groupe D la Guinée-Bissau, le Soudan puis le Nigeria. Les Super Eagles, eux, se préparent avec un nouveau sélectionneur, José Peseiro. Le Portugais, ancien entraîneur du FC Porto et du Sporting de Braga, prendra l'équipe juste à la fin de la CAN. Mais en attendant, c'est bien Augustin Eguavoen, remplaçant de Gernot Rohr limogé au début du mois, qui dirigera la sélection au Cameroun. Une autre CAN, celle de handball masculin senior, qui devrait débuter dans 2 semaines au Maroc, a été finalement reportée en juin. C'est la Confédération africaine de la discipline qui l'a annoncé hier. Initialement prévu du 13 au 23 janvier au Maroc, l'instance fêtière fait face à des recours de la part de l'Algérie et de la Zambie qui remettent en cause le tirage au sort réalisé le 8 décembre dernier lors d'une vidéoconférence. La fédération algérienne, absente lors du tirage, avait indiqué qu'elle boycottait cette CAN qui devrait avoir lieu en partie au Sahara occidental, la région source de fortes tensions avec le Maroc. Maintenant, après enquête, les organisateurs ont donné suite aux différents recours en annonçant qu'un nouveau tirage au sort aurait lieu dans les prochaines semaines et que la CAN devrait finalement se dérouler de 22 juin au 2 juillet toujours au Maroc.
C'était les sports de Élisée Onkpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les assises maliennes de la refondation s'achèvent ce jeudi à Bamako. En croire le site bamako.com, chacun des quatre groupes invités a retenu les meilleures idées, à même d'apporter un changement qualificatif dans la gouvernance du pays. Ces différentes synthèses permettront, ajoute le site, de nourrir le rapport général des travaux dont le contenu servira de feuille de route vers ce Mali auquel tous les citoyens aspirent. Pour en parler, John Lyndon a joint Bassirou Ben Doumbia, journaliste et analyste politique. Il nous donne tout d'abord son avis sur le déroulement de ces assises.
Il s'agit d'un rendez-vous qui consistait à demander à tous les Maliens à participer dans le débat public, dans le débat démocratique concernant l'avenir du Mali. Qu'est-ce qui est bon pour le Mali? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Mali puisse sortir de cette situation qu'il connaît depuis bientôt 10 ans? Alors, c'était normal, c'est évident. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir quelle sera la suite à donner aux résolutions qui seront prises à cette Assemblée, à ce grand rendez-vous national.
Alors, justement, parmi les recommandations, on parle de l'élaboration d'une nouvelle constitution, mieux adaptée donc à la situation politique et sociale actuelle du Mali. Quel est votre avis là-dessus?
Écoutez, c'est une excellente idée. Okay, la constitution actuelle, ce n'est pas qu'elle est vieille, non, elle n'est pas vieille. Et ce n'est pas aussi qu'elle est désuète, elle n'est pas désuète. Mais elle ne répond pas forcément aux aspirations du peuple malien. Parce que comme le Mali, la plupart des pays ouest-africains qui sont d'héritage français ont hérité de la constitution de 1958 de la 5e République française. Alors, cette constitution a été perçue, ou même est perçue en même temps, à certains égards, comme un modèle de copier-coller, une transposition des normes juridiques françaises sur l'ensemble des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Cette constitution ne répond pas réellement aux aspirations du peuple. Je vous donne un simple exemple. Vous avez dans la constitution un président de la République qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et au même moment, vous avez ce même président qui élit le premier ministre et c'est ce premier ministre-là qui répond de la responsabilité du gouvernement devant les parlementaires. Voilà. Alors, c'est nécessaire aujourd'hui que les Maliens aillent vers une nouvelle réforme constitutionnelle qui puisse s'adapter aux aspirations sociales, politiques, culturelles de ce peuple-là pour que chaque Malien puisse s'identifier en ce document qui devient, je pourrais dire, entre guillemets, la référence en termes de gouvernance.
Les débats ont aussi porté sur la durée de la transition. Certains veulent qu'elle soit fixée à 6 mois, d'autres à 5 ans. Quel est, selon vous, le juste milieu?
Écoutez, le juste milieu, pour moi, c'est retrouver d'abord la stabilité du pays, parce qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'était de savoir quel était le but de la transition. Est-ce que organiser les élections pour remettre le pouvoir à un régime démocratiquement élu, qui va s'assurer de la reconstruction et de la refondation du pays, ou est-ce que la transition avait pour vocation de refonder le pays? Ce débat devrait être posé dès le départ, mais malheureusement, il n'a pas été posé. On est parti, on a mis la charrue devant les bœufs, et il est normal qu'aujourd'hui, le peuple soit confronté à ce dilemme.
Bassirou Ben Doumbia, journaliste et analyste politique, joint à Bamako par John Lyndon.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Les rats de marée et l'érosion côtière ont submergé une communauté de pêcheurs sur la côte est du Ghana. De nombreux villageois qui ont été réinstallés ailleurs demandent au gouvernement une solution permanente. Reportage de Senano Tord dans le village de Fouvemé au Ghana. Un récit de Ginny Kapumbu Villa.
L'école primaire RC est en ruine à la suite du plus grand raz de marée à avoir jamais frappé la côte est du Ghana, selon les autorités. C'était la troisième fois qu'elle a déménagé après que la communauté de pêcheurs du village de Fouvoumé a été submergée à deux reprises. Nolej Dewornou est un responsable communautaire de Fouvoumé.
So it started in 1997 and
cela a commencé en 1997 et a détruit la zone en partie. Et en 2016, cela a également détruit une partie à nouveau. Et en 2018, toute la zone de Fouvoumé. Donc, il n'y a plus personne à Fouvoumé maintenant. Ce sont les villages près de Fouvoumé qui sont en train d'être détruits par la mer.
Le village, de 2500 pêcheurs, autrefois prospère, a été réduit à quelques centaines qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, indique que le Ghana a perdu 37% de ses terres côtières orientales à cause de l'érosion et des inondations entre 2005 et 2017. Les autorités mettent en cause la montée de l'océan, le changement climatique, ainsi que les activités humaines telles que la construction de barrages et de ports et la récolte de sable sur les plages. Emmanuel Gemega est chef de la municipalité de Keta.
En tant que chef du MUSEC, le Conseil de sécurité de la municipalité, nous avons tenu une réunion et nous avons pris une ordonnance visant à interdire le ramassage du sable des plages jusqu'à nouvel ordre.
Lors d'une réunion avec les autorités, les villageois de Fouvoumé ont estimé que l'interdiction n'était pas suffisante. Ils ont appelé à la construction d'un mur de défense contre la mer, comme cela a été fait dans d'autres zones de la côte.
L'année 2021 touche à sa fin. Beaucoup de choses se sont déroulées dans ce petit pays de 27 834 km², avec une population estimée à plus de 12 millions d'habitants, selon les chiffres du dernier recensement de 2019. Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura au Burundi, brosse succinctement quelques faits survenus au cours de cette année qui s'achève.
2021 se termine avec la qualification par le Sénat et l'Assemblée nationale burundais réunis en congrès d'un génocide des Hutus, une des composantes sociales burundaises au cours des années 72 et 73 par le pouvoir du dirigeant Tutsi de l'époque, Michel Micombero. En termes de génocide, qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population ou de la classe politique burundaise. Le dernier génocide est reconnu par les Nations Unies et celui contre les Tutsi de 1994 au Rwanda voisin. Le président de la commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver Ndayicariye, n'a pourtant pas mâché ses mots pour qualifier de génocide ce qui est arrivé en 1972 à la composante sociale Hutu du Burundi.
Après une analyse approfondie des faits et gestes du pouvoir du président Michel Micombero ayant précédé les violations graves, massives et systématiques des droits humains contre les Burundis en 1972, 1973, la Commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement, ce 20 décembre 2021, que le crime de génocide a été commis contre les Bahutu du Burundi 1973. Cette déclaration solennelle est faite devant le Parlement du Burundi réuni en congrès au palais de Kigobe.
Une année 2021 qui s'achève avec une carence notoire des devises étrangères, ce qui a provoqué un manque de produits pétroliers sur quasiment tout le territoire burundais, mais aussi une année 2021 qui a vu le nombre de malades du Covid-19 augmenter significativement dans le pays, même si la ministre de la Santé n'a pas donné de chiffres précis concernant le nombre de morts et de malades. La fin d'année 2021 a aussi vu un incendie mortel à la prison de Gitega, la capitale politique du Burundi, où 38 prisonniers ont trouvé sauvé la mort et plus de 60 autres ont été blessés selon les autorités. Mais d'autres sources qui ont requis l'anonymat parlent de plus de 200 prisonniers brûlés vifs et enterrés sans l'aval de leur famille. Le premier vice-président burundais, Prosper Bazombanza, s'était rendu sur les lieux au centre du Burundi.
Nous déplorons malheureusement 38 morts, dont 12 asphyxiés et 26 morts par brûlure profonde. Nous constatons aussi que 69 personnes sont blessées, dont 34 qui sont ici en traitement médical, ici à l'hôpital Fernando Gitega, et 35 qui se sont fait soigner directement à la prison parce que c'était des brûlures qui n'étaient pas profondes.
Concernant la sécurité, des dizaines de personnes ont été tuées sur certains axes routiers de la capitale économique et de l'intérieur du pays, comme le constate le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi, Dr Sixte Vigny Nimuraba.
La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, condamne sans réserve les actes terroristes à l'aide des grenades et des fusils dans les quartiers de la mairie de Bujumbura et ses environs, notamment à Ruziba, Kamenge, Charama et Gatumba, ainsi que les embuscades tendues sur les voies publiques dans la commune de Mugamba ou ailleurs. L'objectif de ces malfaiteurs est de perturber la quiétude des populations innocentes au moment où la paix et la sécurité règnent partout dans le pays.
Signalons que cette année a vu la destruction des constructions anarchiques le long des grands axes routiers dans certains quartiers des Bujumbura et de l'intérieur du pays. Rappelons aussi que le président burundais Evariste Ndayishimiye a pu visiter certains pays et les Nations Unies, programme qui était difficilement réalisable sous le régime de feu président Pierre Nkurunziza. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'administration Biden a repris ses fonctions en promettant l'Amérique de retour et le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est engagé à travailler en étroite collaboration pour renforcer les liens des États-Unis avec ses alliés. Mais les crises, les coups d'État et les conflits inattendus en Éthiopie, en Haïti, en Birmanie, au Soudan et en Ukraine ont particulièrement occupé le plus haut diplomate américain en 2021. Un sujet de la correspondante au State Department de la VOA, Cindy Sane. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
La prestation de serment du diplomate expérimenté Anthony Blinken en tant que 71e secrétaire d'État américain en janvier dernier a suscité beaucoup d'espoir parmi de nombreux alliés et observateurs américains dans le monde.
C'est un jour nouveau pour l'Amérique, c'est un jour nouveau pour le monde.
S'adressant au personnel du département d'État dès le premier jour, Anthony Blinken a affiché ses grandes ambitions.
Le monde veut voir comment nous pouvons soigner nos blessures et redevenir le pays dont tout le monde veut suivre l'exemple. Si nous allons privilégier la diplomatie avec nos partenaires et nos alliés pour relever les grands défis de notre temps, comme la pandémie, le changement climatique, la crise économique, les menaces pour les démocraties, les combats pour la justice raciale et le danger pour notre sécurité et la stabilité mondiale posée par nos rivaux et adversaires.
Mais ces promesses, faites en janvier 2021, se sont heurtées à la dure réalité du terrain. Un coup d'état militaire en février en Birmanie, suivi d'une violente répression contre des dizaines de milliers de manifestants. L'assassinat du président haïtien en juillet et un coup d'état militaire en octobre au Soudan ne sont que quelques-unes des crises internationales auxquelles l'administration Biden a été confrontée durant l'année. Les États-Unis s'efforcent également d'aider à mettre fin au conflit qui a commencé il y a un an dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où des millions de personnes sont désormais confrontées à la famine. Michel Gavin, analyste pour l'Afrique au Council on Foreign Relations.
Je pense que l'administration Biden a fait un effort considérable pour s'engager diplomatiquement sur cette question avec la nomination de l'envoyé spécial Jeffrey Feltman. Mais rien de tout cela n'a vraiment apporté un changement de comportement. Et donc maintenant, nous sommes au bord du précipice avec une possibilité d'effondrement en Éthiopie.
Malgré tous ces défis à l'étranger, les analystes affirment que le président américain Joe Biden et son proche confident Blinken ont réussi à atteindre leur objectif principal, réparer ce qu'ils considèrent comme des relations et des alliances critiques endommagées par la vision du monde « America first » de l'ancien président Donald Trump. Brian Katoulis, analyste à l'Institut du Moyen-Orient.
By and large, I think they've
Dans l'ensemble, je pense qu'ils ont pu s'en tenir à leur stratégie globale avec le voyage du président Biden en Europe au printemps et ses efforts pour renforcer les partenariats et les alliances avec nos alliés démocrates européens. Et de même en Asie aussi, pour tenter de rallier des pays un peu incertains sur la direction que prendraient les États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot et José Le Morissin. Eric Manilakiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.